La demi-heure culturelle de ce 18-20. Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir.
Vous allez nous parler d'une nouvelle collection chez Gallimard. Mathieu Charrier, le retour des frères Cohen, mais ce n'est pas du cinéma, c'est sur Netflix, c'est bien ça?
Effectivement, on en parlera, bonjour.
Bonsoir Mathieu. Vanessa Zah, bonsoir. Et
bonsoir Philippe.
Vous êtes allé dans le pays de notre invité, Joël Dicker. Ce pays, c'est
la Suisse romande.
Et notre invité, Joël Dicker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez seulement 33 ans, c'est ça?
Ou déjà, ça dépend.
Vous avez sorti... Prends ça dans ta gueule, Vandel. Vous avez sorti un best-seller, La vérité sur l'affaire Harry Kiber, qui s'est vendu, suivant les articles et leur date de sortie que j'ai lu, entre 4 et 5 millions d'exemplaires dans le monde. C'est juste phénoménal. Et qui devient une série internationale en 10 épisodes, série produite par la MGM avec Patrick Dempsey et Ben Schneider. Ça a démarré sur TF1 mercredi et ça a cartonné. TF1 était en tête des audiences, loin devant les autres, avec 5 647 000 téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour parler de cette série. Tout d'abord, d'un mot, Nicolas Caro, vous êtes notre spécialiste littérature. Un mot sur ce livre phénomène, qu'est-ce que ça raconte?
Alors, c'est l'histoire de Marcus Goldman, qui est un jeune écrivain à succès, parce qu'avec son premier roman, il est devenu une sorte de phénomène littéraire, genre Joël Dicker, vous voyez. Et en fait, il mène la belle vie, maintenant il avait rien, et maintenant il a tout. Et donc, il mène la belle vie, mais il a le syndrome de la page blanche. Il y a beaucoup trop de pression sur lui. Et puis en plus, il a envie de profiter un peu. Donc, il retarde, jusqu'à ce que son éditeur lui dise, maintenant, faut vraiment l'écrire, sinon c'est procès et tout, parce qu'il avait signé pour 5 livres. Et donc, il sait pas trop quoi faire, c'est un peu la panique. Il appelle Harry Kiber, qui était son prof à l'université, et qui est aussi un écrivain à succès, mais beaucoup plus vieux, il a 67 ans. Et Harry lui dit, viens chez moi à Aurora, dans le New Hampshire, tu vas prendre le verre, et comme ça, tu vas t'aérer un peu et tu pourras écrire. Il y va, et tout. Il revoit son vieux prof avec qui est extrêmement charismatique, et très élégant, et très beau, et tout ça, et qui a tout. Et puis, il va réussir petit à petit à s'y remettre. Sauf qu'entre-temps, on apprend qu'on a retrouvé dans le jardin d'Harry Kiber le corps, enfin ce qu'il en reste, le corps de Nola Kellerghan, qui avait 15 ans en 1975, et qui avait disparu en 1975, donc 33 ans plus tôt à peu près. Et voilà, et donc Marcus va décider d'aller aider Harry, qui a été arrêté et accusé du meurtre. Et voilà, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé cet été 75?
Alors moi ma question c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est comment Joël Dicker, ce livre est devenu un film, en l'occurrence une série.
Alors ce livre, quand il est sorti et qu'il a commencé à avoir un peu de succès, a été l'objet de pas mal de propositions par des producteurs, par des réalisateurs.
Pas mal, j'ai lu 90.
En total, oui. Ouais. Wow. Presque 100.
Ouais.
Mais sur les 5 ans qui ont mené de septembre 2012 jusqu'à décembre 2017, et aucune des propositions ne fonctionnait bien, et notamment parce que mon éditeur qui se chargeait de trouver la perle rare voulait vraiment un réalisateur passionné. Et c'est Jean-Jacques Haneau qui a été cette perle rare.
Avant qu'on parle d'Haneau, vous avez vraiment dit non à Spielberg?
À DreamWorks et indirectement à lui, mais vous savez, c'est-à-dire que
faut le faire quand même. Hein.
Mais il faut se rendre compte que les Américains et les studios US surtout, ils ont une passion qui est d'acheter des livres pour éventuellement un jour peut-être, si jamais vraiment, en faire un film. Et c'est le meilleur moyen de pas faire un film. Et il fallait vraiment trouver un projet qui se réalisait. Ça, c'est la vraie difficulté, c'est que le projet aille jusqu'au bout.
Dites l'argument de votre éditeur qui était le regretté Bernard de Fallois pour dire non à Spielberg.
Il disait, je veux que M. Spielberg vienne déjeuner avec moi à Paris.
Il n'a pas voulu, voilà. Il n'a pas fait le film. comment vous avez choisi Jean-Jacques Haneau, le réalisateur? Il faut dire que c'est lui qui avait déjà mis en image deux romans, et pas des moindres,
ouais.
L'amant de Marguerite Duras et Umberto Eco,
le nom de la rose, et un de ses premiers films, La guerre du feu, qui on le sait moins, mais qui est aussi une adaptation d'un roman. Et Jean-Jacques Haneau, pardon, on l'a rencontré pour un déjeuner, et on a immédiatement été convaincu par sa passion, c'est vraiment ça. Il voulait le faire, il voulait le faire vite, et quand il en parlait, on voyait le film devant nous. Et ça a été un très grand plaisir de le voir comme ça, alors.
Sauf qu'il a décidé d'en faire, non pas un film, mais une série. Pour quelle raison? Et est-ce que ça vous a séduit, cette idée?
Alors, mon éditeur Bernard de Fallois, surtout lui et un peu moi aussi, on était accrochés à l'idée d'un film, mais peut-être parce qu'on n'avait pas assez envisagé la piste d'une série télé, parce qu'en pensant film, on se disait le seul problème qu'on aura, c'est comment est-ce qu'on adapte ce livre qui fait quand même 650 pages en un film de 2 heures. Et on était inquiet que le tempo et que l'histoire soient vraiment hachés pour tenir ce format qui au fond est assez court. Et Jean-Jacques a dit non, mais il faut pas en faire un film, il faut en faire une série, parce qu'il faut raconter toute l'histoire et seule une série peut le faire, et il avait raison.
Vous avez dit oui tout de suite?
Tout de suite, ouais.
J'ai vu les deux premiers épisodes, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le suspense. Je me demande vraiment ce qui va se passer. Je vais pas vous mentir, moi j'ai pas lu le livre. Or, vous dites que c'est également votre façon d'écrire, vous ne faites pas de plan, vous ne savez pas où vont vous conduire les personnages. Vous dire par là que quand vous avez commencé, vous ne saviez pas si Kiber était innocent ou coupable.
Exactement. J'ai écrit le livre sans savoir ce qui se passerait à la fin, sans savoir qui était le coupable, même parce que pour moi c'était un bon moyen, et c'est toujours un bon moyen de savoir si le livre me plaît. C'est-à-dire que tant que je suis accroché, tant que je me dis mais qui a fait ça ?
Pardon. Oui. Mais si vous arrivez à la 500e page et qu'il vous plaît pas, vous faites quoi ? Vous avez bossé pendant 2 ans pour rien ?
Je recommence.
C'est ça, vrai.
C'est d'accord. Mais si, mais c'est important parce que c'est pas une question de bosser pour rien, parce que c'est la question de quel est le plaisir que j'ai maintenant.
Non,
c'est
j'ai vraiment bien compris. Ça, c'est... Il y a un livre. Écrire un livre, c'est pas composer une chanson de 3 minutes. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans de travail.
Oui, c'est 3 ans de travail à peu près. Mais ça fait partie du risque, ça fait partie du travail. Il y a des textes où il y a des livres. Mon dernier roman, pour en faire 600 pages, j'ai dû en écrire 1200. Donc c'est, voilà, ça fait partie du jeu aussi.
Comme on dit en France, je sais pas si on le dit en Suisse, vous êtes un grand malade. quelle a été votre implication dans l'adaptation? Vous avez tout relu? Vous avez suivi des scènes ou pas du tout?
Non, non. Alors moi, mon rôle, c'était de trouver celui qui le ferait. Une fois que, Jean-Jacques Haneau était l'homme,
c'était fini.
On l'a laissé faire.
Non, parce que j'ai lu que vous étiez sur le tournage au Canada.
J'étais beaucoup sur le tournage. Mais pour reprendre une phrase que Umberto Eco a eue, à propos de son adaptation du nom de La Rose, il a dit à Jean-Jacques Haneau, il lui a dit « C'est mon livre, c'est ton film ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le livre a été écrit par moi, et si vous voulez lire ce que j'ai fait, allez lire mon livre. Ensuite, Jean-Jacques Haneau a fait une adaptation très fidèle.
Non mais j'ai bien compris ça. Mais vous étiez donc tous les jours sur le tournage au Canada, inspecteur des travaux finis, à regarder ce qui se passe.
Non, j'étais dans le plaisir de voir mon livre prendre vie sous mes yeux. C'est très fidèle, donc c'est vraiment, c'est les dialogues, c'est les détails, tout est là. Et c'était fascinant, c'était comme si le livre existait vraiment.
Et le choix de Patrick Dempsey, que les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices connaissent bien parce qu'il joue dans Grey's Anatomy?
Oui.
Alors, ça s'est fait comment?
Une idée de Jean-Jacques Haneau. Et je me demandais comment est-ce qu'on jouerait ce personnage de Harry qui est là en 1975, qui est de nouveau là en 2008, et j'avais l'impression qu'il faudrait 2 acteurs pour jouer ces 2 phases de temporalité. Eh bien, pas du tout. Dempsey a été incroyable. Par le maquillage, évidemment, et par tout ce que la décoration et les effets peuvent faire, mais surtout par son jeu. Il a un jeu incroyable et c'est un très grand acteur.
Mais il a été dur à convaincre ?
Non, je crois qu'il était très enthousiaste et je sais qu'il a reçu le scénario et que le lendemain, il était dans un avion pour Paris pour voir Jean-Jacques. Et il était très enthousiaste par ce projet.
Il faut quand même dire que le livre a été traduit dans 40 langues, 4 à 5 millions de ventes. C'était un phénomène quand il est sorti, Nicolas Carreau. Il ressort d'ailleurs le livre.
Oui, il sort en format poche et il y a les photos du tournage d'ailleurs. On vous voit avec Jean-Jacques Haneau, avec Patrick Dempsey.
Et un texte de Jean-Jacques aussi qui explique pourquoi.
Mais Nicolas,
oui, c'était un phénomène. C'était en 2012, il me semble. Et moi, je me rappelle que tout le monde demandait si est-ce que tu as lu Harry Quebert, quoi. Hein, c'est vrai, quoi. Vous l'avez vécu comment? Marcus dans le livre?
Non, d'abord parce que c'est pas mon premier roman et je pense que c'est très différent. J'ai d'abord écrit 5 romans qui ont été refusés par tous les éditeurs et puis finalement un premier roman qui a pas marché du tout, qui a probablement été acheté que par mes parents et ma grand-mère et mes cousins. Et donc ensuite il y a eu finalement Harry Quebert que je voulais pas vraiment faire. Et Bernard de Fallois était convaincu, il disait, mais oui, il faut le faire tout de suite, ça va être super ça. Je dis, mais non, mais qui va lire ce gros bouquin? Et on l'a fait, et à ma grande surprise, ça a marché assez vite. Mais de façon, alors aujourd'hui, on se rappelle d'un succès comme ça très prenant, mais ça a mis un peu de temps quand même. Pas des années, mais ça a pris quelques semaines. Donc il y avait quand même au début cette angoisse de dire, mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Le premier tirage, c'était 6000 exemplaires. Je me disais, mais qui sont les 6000 personnes qui vont acheter ce livre? Ma grand-mère, mes parents, vous voyez, moi j'étais plutôt à 3-4 personnes. Donc j'étais très incrédule.
J'ai retrouvé les interviews de vous à l'époque. Vous disiez, c'est 6000 ventes, c'est dingue. Ensuite, vous avez dit, c'est 30 000, c'est dingue. Vous avez dit, c'est 100 000, c'est dingue. Vous avez dit, c'est 500 000, c'est dingue. Vous avez dit, c'est 1 million, c'est dingue. Ouais. J'arrête ici cette litanie. Joël Dicker avec nous sur Europe 1. On se retrouve tout de suite.
19h39, le samedi sur Europe 1, vous le savez, dans votre grand journal du soir, on termine avec la culture, Philippe Vandel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Nicolas Carreau, avec Mathieu Charrier, avec Vanessa Zah et avec Joël Dicker, auteur suisse de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert. C'est un livre et c'est devenu une série qui a démarré ce mercredi sur TF1 et qui cartonne, il y en a encore pour 4 soirées. Mathieu Charrier, vous disiez, le succès du livre... C'était la pochette, c'est parce que vous êtes un homme d'image que vous dites ça. La couverture.
Vrai, je trouvais la couverture particulièrement réussie avec cette image à Edward Hopper. Ça donne envie de se plonger dans l'univers américain et je trouve que aujourd'hui, il faut faire un effort aussi sur l'objet livre. Et moi, je me rappelle pour avoir lu le livre à l'époque que c'est aussi juste la photo de couverture où je me suis dit, tiens, c'est un univers dans lequel j'ai envie de plonger. Je sais pas si c'est pour ça que vous en avez vendu des millions, mais je pense que ça...
Vous avez raison. La couverture, c'est très important. Le livre est un objet, donc on doit en faire quelque chose de beau. Et vous avez raison. Et aujourd'hui encore, il y a des éditeurs, nous ne citerons pas de nom, mais qui ne veulent pas mettre de photos sur la couverture. Alors, ce qu'ils font, c'est que vous avez une couverture toute blanche ou toute jaune ou toute quelque chose, et par-dessus, ils mettent un bandeau, ils mettent une image sur un bandeau, comme s'ils n'assumaient pas. Mais en même temps, c'est une image, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est important de donner envie. Et c'est pas quelque chose qui est insultant.
Peut se dire que ça peut laisser la liberté totale au lecteur d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer comme décor.
Oui, mais ça veut pas dire que vous avez une image, que c'est forcément l'image du livre. Et je crois que l'image, c'est simplement un habillage qui est une porte qui dit bienvenue aux gens. Et c'est important de prendre les lecteurs avec soi, de les emmener, de les encourager.
C'est comme une affiche de film, c'est comme une pochette de disque.
Vous avez absolument raison, c'est comme une affiche de film.
Joël Dicker, vous êtes suisse, vous êtes un petit peu français, et les critiques n'ont pas été toujours tendres avec vous. Vous savez qu'on est ici en France, un pays qui n'aime pas le succès. Est-ce que ça a été difficile pour vous, la critique?
Non, mais vous savez, si on reprend l'évolution du livre, il y a d'abord eu des très bonnes critiques parce que n'ont parlé du livre que les gens qui voulaient le défendre. Ils se sont dit, ce bouquin d'un Suisse que personne connaît, chez un éditeur plutôt pas très connu, on va le soutenir un peu. Donc les premières critiques ont été que des critiques de gens qui étaient pour. Et puis c'est qu'une fois que le livre a eu un très grand succès, que tout le monde s'est dit, il faut qu'on en parle. Et dans ces gens-là, des gens n'ont pas aimé. Et c'est important aussi, on a le droit de pas aimer un livre. Et pour moi, c'est il faut parler de ça aussi.
Vous avez été assez amer après le Goncourt, vous l'avez raté de peu. Vous avez dit, j'ai beaucoup appris sur le milieu littéraire, sur les rapports humains en général. J'ai ouvert les yeux sur le fait que tout le monde n'a pas forcément envie de faire de la vie une fête. Je n'avais pas mesuré combien les gens pouvaient se montrer vicieux et jaloux face au succès. Concrètement, ça s'est manifesté comment?
Mais c'était pas les critiques, donc c'était pas lié au Goncourt, parce que j'ai été en finale du Goncourt, qui a été une aventure incroyable et qui a été un tremplin très important. Et le Goncourt, c'est ça aussi, hein. C'est pas forcément que avoir le prix, c'est que le Goncourt est capable de rassembler et de mettre en lumière des livres qu'on peut-être des gens n'avaient pas encore lus. Et donc c'est un potentiel plus important. Ça, c'était plus sur des réactions. La réaction de moi face au succès, pas par rapport au journalisme, mais plutôt à des gens que je connaissais, et j'ai découvert que tout d'un coup des gens ne vous aiment plus, des amis, des gens proches, tout d'un coup vous tournent le dos dans la rue parce qu'ils vous aiment plus, parce que vous avez eu un succès avec un livre. Donc voilà, c'est l'apprentissage aussi de la vie. Hein.
Bon, je pense que j'ai encore jamais eu de succès. J'ai retrouvé une interview de vous qui remonte à 2012, donc il y a 6 ans, et vous dites, ça m'a bien fait marrer. J'ai envie de retrouver un vrai travail avec des collègues et des horaires. Ça, vous avez oublié.
Ah, j'ai oublié ça. J'ai dit ça, moi.
Oui, vous avez dit ça.
J'ai dit des conneries aussi.
C'était dans le journal Le Temps. Nicolas Caro, ce soir, vous avez lu pour nous, parce que tiens, juste un mot sur les couvertures, c'est une nouvelle collection de chez Gallimard, c'est plus la couverture beurre frais de chez Gallimard.
Non, c'est un truc très graphique, avec
exactement.
Du orange, du bleu, des petits triangles.
Et c'est le roman c'est d'un dessinateur de bande dessinée.
L'auteur c'est Fabrice Caro, C-A-R-O, aucun lien avec moi je précise pour éviter les malentendus. Fabrice Caro alias Fab Caro, le dessinateur à qui l'on doit notamment Zaï 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 Zaï, gros succès, Mathieu Charrier est fan. Moi je connaissais pas jusqu'à ce roman et maintenant je suis fan aussi, ça s'appelle Le Discours dans la collection Signe de Gallimard, cette nouvelle collection. Donc.
Qu'est-ce que ça raconte? Moi, je le connais et c'est un scénariste de BD exceptionnel.
Et ben,
qu'est-ce que ça raconte
aussi? L'histoire d'Adrien, quadragénaire un peu en crise, il se trouve à un dîner de famille, ça va pas du tout. Sa compagne lui a dit qu'elle avait besoin d'une pause, ça c'est jamais bon. C'était il y a un mois et pas de nouvelles depuis. En plus, Adrien vient de lui envoyer un texto avant le dîner pour avoir des nouvelles en fin d'après-midi, juste un petit... Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien, bisous, avec un point d'exclamation à la fin, ça fait plus détendu. Et depuis, bah, il attend que son téléphone vibre, mais rien, donc c'est pas bon du tout.
Et il est où le discours alors?
Alors justement, il est là, il écoute son futur beau-frère et ses grandes théories sur la politique et le réchauffement climatique, et au moment où sa sœur est à la cuisine, le futur beauf lui dit « Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. » Il pose pas la question, il demande très clairement à Adrien d'écrire un discours pour la cérémonie de mariage. Ça a l'air de rien, mais ça travaille immédiatement Adrien pendant tout le dîner, c'est un grand angoissé, et donc le livre nous plonge dans la tête d'Adrien, en train d'essayer d'écrire son discours mentalement, et au passage de refaire le film de sa vie pour comprendre ce qui cloche chez lui, comment sa vie se résume à ne pas faire de vagues pour éviter d'avoir à les surmonter, avec parfois des nouvelles du dîner. C'est un livre sur notre rapport aux autres et à la solitude. Dit comme ça, ça pourrait paraître un peu déprimant,
un peu, ouais.
Mais pas du tout, parce qu'avec l'écriture de Fabrice Caro, ça devient très très drôle, un humour désespéré. Le seul qui vaille.
Parce que c'est bourré de jeux de mots, comme dans ces bandes dessinées de...
Pas trop de jeux de mots, mais des considérations. Par exemple, la vague qu'il a pas envie de créer pour pas la surmonter, c'est que il nous parle par exemple d'un truc qu'il avait fait quand il était à l'école pour sa maman, un porte-manteau, ça devait ressembler à un sapin, mais en fait ça ressemble à un phallus. Et sa mère l'a toujours gardé parce que lui, il a jamais osé lui dire « tu peux l'enlever, c'est pas grave, ouais. Je sais que c'est moche ».
Donc il y a un énorme phallus quand on arrive chez
sur la porte de la cuisine.
Super, voilà. C'est bien. Salut au facteur. Le discours donc de Fabrice Caro, c'est chez Gallimard. Merci Nicolas, vous êtes un grand lecteur. Joël Dicker, vous avez le temps de lire?
Je lis pas mal, oui. Après, il y a des gens qui lisent, je parle à quelqu'un qui lit à peu près 30 livres par mois, donc je ne lis pas 30 livres par mois. Ouais. Mais ce livre a l'air excellent, ça donne
oui,
très envie.
Très, très
ça
bon.
Donne très 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 envie.
On est samedi, je vous pose la question parce que qu'est-ce que vous faites le week-end?
Ça dépend des week-ends.
Vous avez dit que vous détestiez les week-ends. C'était
oui,
le sens de ma question.
C'est vrai?
Ouais.
Bah, j'aime pas le week-end alors.
Mince alors.
Il se rend compte que quand on fait beaucoup d'interviews, on sait plus très bien ce qu'on a dit.
Non, parce qu'il a dit, je peux rester des heures devant la télé à regarder du tennis, du hockey, de la Formule 1, du foot et même du curling. Je me dis, c'est quoi la vie de ce gars? Vous qui avez dit ça ou pas ou...
Mais je crois que vous ressortez un tout petit peu du contexte, à mon avis, qui était de dire, est-ce que je regarde du sport à la télévision? Oui. Ouais. J'adore le sport à la télévision, j'aime bien faire du sport, mais je peux regarder tous les sports possibles et imaginables à la télévision, ça me fascine.
D'accord. Je suis content d'entendre ça.
On pourrait regarder du curling ensemble si vous voulez.
Moi, j'ai toujours pas compris les règles. Ouais. J'ai toujours pas compris les règles. Et vous, vous les avez comprises?
C'est un peu comme la pétanque, si vous voulez.
Non. À la pétanque, il n'y a personne qui frotte le terrain par terre pendant que la boule avance.
C'est que vous frottez, soit vous frottez pour l'aplanir et que le galet avance plus vite, soit vous frottez pour l'abîmer et que le galet ralentisse. C'est très facile.
Vous êtes des fous, mais c'est pour ça que je vous aime. Meilleur culturel de ce 18-20 avec Nicolas Carreau, avec Mathieu Charrier, avec Vanessa Zah, notre invité Joël Dicker, dont le best-seller La vérité sur l'affaire Harry Kéber devient une série en 10 épisodes. C'est produit par la MGM avec Patrick Dempsey et Ben Schneider. Ça a démarré mercredi et c'est signé Jean-Jacques Hano. On va parler cinéma avec vous, Mathieu Charrier. Une fois n'est pas coutume, vous voulez nous parler ce soir d'un film que l'on ne verra pas au cinéma, mais sur Netflix, et pour cause, c'est le nouveau film des frères Coen.
Oui, La balade de Buster Scruggs, disponible effectivement uniquement sur Netflix, alors on va y revenir, mais d'abord, pourquoi il faut le regarder? Parce qu'on retrouve le côté farce que l'on aime chez les Coen. Ce film, vous savez, c'est un western, alors en fait, une succession de 6 contes d'une vingtaine de minutes sur la conquête de l'Ouest américain. Au début d'ailleurs, ça devait être une série, finalement, c'est un film, et il y a une histoire par chapitre, avec ses décors, Monument Valley, des saloons tout en bois et un brin miteux, des chercheurs d'or, bien sûr, des banques, et leur coffre-fort à braquer, et au milieu, le bruit des armes et des pistolets qui claquent. Certains des récits sont un peu violents, il y a pas mal de morts, mais quel plaisir de voir des acteurs que l'on aime s'amuser dans ce genre de décor, comme Liam Neeson, James Franco, Tom Waits. Tous jouent de la gâchette avec beaucoup de dextérité, extrait.
Mes amis, ici, dans le Grand Ouest, la situation peut vite dégénérer.
Vous croyez qu'ils vous racontent des histoires?
Bon, il n'y a plus qu'à chercher, tu crois pas?
Vous connaissez l'histoire.
Il y a deux catégories d'hommes.
Les chanceux et les autres.
Les faibles et les forts.
Les pêcheurs et les honnêtes gens.
Non.
Mort ou vif.
J'apprécierais que vous alliez déposer votre arme dans le réceptacle qui se trouve juste à côté des portes battantes.
Et si je refuse ?
Et si je refuse, ça va évidemment dégénérer. Alors c'est une balade ce film, hein, dans le Grand Ouest. Je vais pas vous dire que c'est le plus grand film des frères Coen, mais sincèrement on passe un bon moment. Dans la veine d'ailleurs, je sais pas si vous l'aviez vu, de leur précédent film avec César, avec George Clooney, qui était là aussi bourré d'humour, un peu noir parfois. Voilà, La balade de Buster Scruggs, qui a d'ailleurs reçu le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise.
Mais alors vous nous disiez, Mathieu, que ce film n'est disponible depuis hier que sur Netflix. Ça veut dire qu'on peut pas le voir dans les salles de cinéma?
Eh bien a priori non, en tout cas pas en France, ça c'est sûr, en raison, vous savez, de la chronologie des médias qui obligerait Netflix à attendre 3 ans après l'avoir montré en salle pour pouvoir le proposer à ses abonnés français. 15 mois seulement si la réforme qui est en préparation passe. Mais évidemment, ça reste inimaginable pour la plateforme dans cette ère de l'immédiateté. Et on peut le regretter, franchement, parce qu'une nouvelle fois, c'est un film de cinéma comme d'autres qui vont sortir dans les prochaines semaines sur Netflix. On peut citer le formidable Roma d'Alfonso Cuarón, que j'ai eu la chance de voir, qui va arriver. On peut aussi parler du prochain film de Scorsese, vous imaginez, qui ne sortira pas dans les salles, du prochain Guillermo del Toro autour de Pinocchio. Bref, pas mal de films de grands réalisateurs qu'on sera obligé de regarder sur notre télé. Alors les frères Coen, ils expliquent dans une interview au journal du dimanche qu'il est très difficile de trouver de l'argent pour financer des films autres que des grosses productions, même quand on s'appelle, c'est dire, les frères Coen, et qu'ils se sont donc eux aussi tournés vers Netflix. Il y a cette citation dans l'interview qui fait quand même réfléchir. La créativité qui a déserté Hollywood, on la retrouve chez Netflix ou Amazon. Ça devrait faire réfléchir les grands studios de production. Netflix qui d'ailleurs remporte des prix dans les grands festivals. Netflix qui sera dans les candidats sérieux aux prochains Oscars. Bref, Netflix qui est en train de chambouler l'ordre cinématographique mondial.
Donc on peut découvrir le dernier film des frères Coen, il s'appelle La balade de Buster Scruggs. Merci Mathieu Charrier, j'ai vu les publicités sur les bus dans Paris, donc c'est comme un lancement de cinéma normal.
Et le pire, c'est qu'ils ont même acheté la une du film français, qui est le magazine de référence pour les professionnels du cinéma, pour faire la promo de ce film, c'est dire s'ils vont loin.
Joël Dicker, vous êtes fan des frères Coen?
Je suis fan des frères Coen, mais je suis très interloqué par ce que vous dites, que même eux n'arrivent pas à trouver de l'argent. Et Hollywood est marche complètement à l'envers, et ils ont vraiment tort, et tous les talents vont vers les plateformes qui ont de l'argent et qui veulent faire des vraies choses et pas des films de super-héros et de super je sais pas quoi, qu'on en a marre. On veut de la création et c'est très dommage.
Est-ce que dans les 90 producteurs qui voulaient adapter votre best-seller La vérité sur l'affaire Harry Kéber, est-ce qu'il y avait Netflix?
Il n'y avait pas Netflix, mais en fait, Netflix elle-même, en général, quand elle fait une production, c'est un producteur qui s'affilie avec. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des talents qui migrent vers eux, parce que c'est un aimant qui a de l'argent et qui attire ça, et qui donne aussi une liberté très importante que les studios n'offrent plus vraiment.
Ça, ils ne regardent pas ce que vous faites. Ils vous achètent une marque, ils achètent les frères Cohen, allez-y, faites-vous plaisir. Ils donnent l'argent, ils peuvent donner 150 millions de dollars, ça leur fait pas peur.
Une autre marque, en trois lettres, ZA, Vanessa ZA, vous avez mis votre montre à l'heure suisse, l'heure de Joël Dicker. Vous nous avez concocté un week-end sur le lac Léman à Montreux, à l'occasion du Montreux Comedy Festival, et là il va falloir être talentueuse parce qu'il est en face, il surveille.
Attention, donc le festival Indifact qui va accueillir les meilleurs humoristes francophones dès le 29 novembre, et donc c'est l'occasion de découvrir Montreux et le lac Léman. Alors est-ce que vous savez à qui l'on doit la création justement de Montreux?
Non, à Deep Purple.
Eh bien aux écrivains.
Voilà. Non, parce que Smoke on the Water, ça se passe à Montreux. Ils arrivent au festival de Montreux, il y a du feu, et Smoke on the Water, c'est ça.
Je pensais que vous alliez me dire Freddie Mercury, parce qu'il avait installé justement aussi à Montreux un studio. Eh bien non, ce sont les écrivains. Le premier à lancer à Montreux, c'est Jean-Jacques Rousseau, avec son livre La Nouvelle Héloïse. Donc ces deux héros, Julie et son précepteur Saint-Preux, s'aiment en cachette à Clarence, le quartier ouest de Montreux aujourd'hui. Et son roman est un tel succès à sa sortie en 1761 que de nombreux Anglais viennent en pèlerinage en quelque sorte sur ces lieux. Et puis après, c'est au tour de Lord Byron d'y mettre sa touche. On est au début du 19e. Il écrit son poème Le prisonnier de Chillon, qui est un clin d'œil au château de Chillon, qui est construit sur un pic rocheux au bord du lac. Très romantique, ce qui va attirer une deuxième vague de touristes, même si le terme n'existe pas vraiment encore, Philippe, à l'époque. Et c'est à ce moment-là que le village de Montreux ouvre une première pension, un hôtel, puis un second, etc. et devient une destination touristique avec l'arrivée donc de l'Orient Express. Aujourd'hui, il existe justement des balades sonores pour partir sur les traces de toutes ces personnalités qui ont foulé Montreux et le canton de Vaud. Il y en a une trentaine, comme Madame de Staël ou Audrey Hepburn. Et pour ça, il n'y a pas besoin de prendre un guide. Il suffit de télécharger une appli gratuite Rencontre Inspiration.
Et autour de Montreux, qu'est-ce qu'on peut faire dans les environs? Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors, quand vous débarquez évidemment au festival, vous tombez en plein milieu donc du marché de Noël, un marché de Noël qui vaut évidemment le coup, c'est l'un des plus beaux, l'un des plus grands, avec les petits chalets qui longent le quai. On est vraiment dans l'image d'Épinal, c'est vrai, ouais. Mais ça fait du bien.
Enfin, Épinal, c'est pas à Montreux, bon. Je vous dis juste ça comme ça.
Et à quelques kilomètres de Montreux, en revanche, il y a un musée incontournable qui vient d'être élu meilleur musée d'Europe par l'Académie européenne des musées. C'est le Chaplin's World by Grévin, qui se trouve à Corsier-sur-Vevey. Et ça, c'est un bon mix entre culture et divertissement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Joël Dicker, vous l'avez vu ou pas?
Je n'ai pas vu le musée, mais c'est à Vevey que Charlie Chaplin a fini sa vie. Donc près de Montreux, ces deux villes sont vraiment qui se touchent presque. Allez visiter, c'est très beau, vive la Suisse.
Alors justement, on plonge dans l'intimité de Chaplin, on déambule dans son fameux manoir, le manoir de Bann, dans lequel il a vécu, comme vous l'avez dit, les 25 dernières années de sa vie, puisque le macartisme lui interdisait de revenir aux États-Unis. Et là, on découvre qu'il est très attaché à ses enfants via des photos, des films, mais aussi bien acharné au travail. On apprend même que c'est au manoir qu'il a filmé la comtesse de Hong Kong avec Sophia Loren et Marlon Brando. Quant à son univers cinématographique, ils ont recréé un grand studio hollywoodien qui est assez bluffant. Vous déambulez dans les décors donc de ses plus grands films qui sont en même temps projetés avec des images. Vous êtes en immersion totale avec une trentaine de personnages créés par Grévin, des personnages comme Churchill ou Keaton. Voilà, il s'est tellement réussi qu'on en reste muet. Ça, c'était pour le jeu de mots.
Ah oui, l'humour, dis donc. Quelques adresses alors pour ce week-end à Montreux, Vanessa?
Alors, le trajet, évidemment, Paris-Lausanne à faire en TGV, TGV Lyria. Et j'ai deux hôtels à vous proposer. Le Fairmont Montreux Palace, histoire de revivre l'élégance.
Avec le nom, on sent que ça va coûter un bras.
On se fait plaisir, mais en même temps, quand on s'appelle aussi Joël Dicker, on a envie d'y aller parce que Nabokov. Exactement, il y a séjourné. Et puis sinon, beaucoup plus traditionnel, le Coucou, qui est un chalet suisse très raffiné, à 1200 mètres d'altitude. Et là, on est à Caux et ça vaut le coup. Même la table y est très bonne.
Ça vaut le coup, ça vaut le coucou. Je ne vais pas vous demander, Joël Dicker, pourquoi vos romans ne se déroulent pas en Suisse. Vous avez répondu des dizaines de fois à cette question. Mais est-ce qu'un prochain va se dérouler en Suisse?
J'espère bien, j'aimerais bien. Mais une difficulté pour moi de la Suisse jusqu'à maintenant, c'est comme j'y vivais, enfin j'y vis toujours, mais c'est, je trouve que la réalité par rapport à la fiction parfois est difficile. Et que de raconter une ville imaginaire en Suisse pour me sentir plus libre, j'aurais de la peine à la placer parce que la Suisse est très occupée. Sinon il y a des montagnes, des lacs et puis le reste, il y a des villes partout. Et je trouve que cette liberté de l'esprit, elle est plus facile dans un pays plus vaste comme les États-Unis. Mais j'espère que, et je pense que ça finira par changer.
merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Mais on aurait pu croiser Vanessa Zaa dans un de vos romans. Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Jacques Hano. Ça a commencé ce mercredi et ce fut un carton. Plus de 5 600 000 téléspectateurs. Merci beaucoup Vanessa, Mathieu et Joël Dicker.